RCF.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre invité est un scénariste de bande dessinée humoristique belge. Il a à son actif plus de 15 bandes dessinées, de nombreux livres dédiés à la jeunesse. Vos enfants, vos petits-enfants ont certainement lu une histoire écrite par lui. Bonjour François Domte.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation. Le public vous connaît davantage sous le pseudonyme Falzar. C'est ainsi que je vais vous appeler pendant une heure, si vous le voulez bien, évidemment.
D'accord, ça me va.
Cette émission est la vôtre, je vous propose d'y entrer.
Tout doux, avec Bérangère Loup.
On va avoir l'occasion de parler de votre dernière création, je dirais même de vos dernières créations. Je pense notamment à la bande dessinée Mon Papy Titanic aux éditions Bambou ou encore Les Chicoufs, édité chez Soleil. Mais pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, je vous propose de remonter un petit peu le temps. Est-ce que ça vous va ?
D'accord, ça roule.
On va vraiment remonter à la genèse de votre histoire. Tout commence pour vous le 15 avril 1961 à Mons, une province de Hainaut, en Belgique. À quoi ressemble le petit Falzar ? Il est sage, il est doux, il est rêveur, il est agité ?
Il est plutôt rêveur et il est pas mal sage en classe. Il essaye d'être le premier, mais il y en a toujours un qui est devant moi. Donc je suis l'éternel deuxième. Je suis le Poulidor de ma classe.
De votre pour classe.
Pour ceux qui connaissent encore Poulidor.
Ah oui. Et nos auditeurs le connaissent évidemment. Quel souvenir vous gardez de votre enfance ? Cette enfance justement, elle est douce, elle est agréable, elle est remplie d'aventures ou au contraire, elle est peut-être ennuyante et c'est ce qui vous permet de vous échapper pour créer toutes ces histoires ?
Mais en fait, j'étais le cinquième enfant d'une grande famille, donc j'étais un peu décalé par rapport à mes frères et sœurs, parce qu'il y avait une différence de 6 ans avec mon frère juste au-dessus. Donc, ce qui fait que j'étais un peu, oui, j'étais solitaire, mais très très fort dans la rêverie, l'imagination, ça jamais bien, ça. Mais pas malheureux du tout, non, ouais. Au contraire. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une enfance assez sympa.
Très jeune, vous allez vous passionner pour les livres et les bandes dessinées, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous avez dit 5 enfants. Vous êtes un copieur, dites-moi, Falzar. Vous aussi, vous en avez fait 5 ?
Non, j'en ai pas fait 5. Là, je corrige. Non, j'ai 3 enfants et ma compagne en a 2, donc ce qui fait que voilà, à 2 on en a
on
en avait
5
à la maison.
D'accord. Donc finalement à la fin, vous vous retrouvez avec le même nombre de personnes à table que vous avez connues vous dans votre enfance.
Oui, c'est vrai. C'est, bon, ça, on va dire que c'est un hasard. Hein. J'ai pas couru derrière, donc. Non, c'était vivant. C'était assez vivant.
Si je reviens sur votre enfance, et je le disais, très jeune, vous vous passionnez pour les livres et les bandes dessinées. Vous vous amusez à dessiner, mais surtout à écrire des histoires. D'où vous vient justement ce goût pour cet art ?
Ben voilà, comme je le disais, c'est le fait de peut-être d'un peu d'être seul, de peut-être un peu de temps en temps s'ennuyer, je suppose. Moi, j'ai toujours pensé que l'ennui c'était assez intéressant, comme ça peut être un moteur intéressant pour l'imagination. Et donc, moi, je me racontais régulièrement des histoires où j'étais invariablement le héros, pas spécialement musclé, mais j'étais le héros quand même. Donc voilà, je pense que ça vient de là.
Plus tard, vous allez suivre une formation d'instituteur, puis changerez d'orientation et suivrez des cours de criminologie. Alors ça, je vous cache pas que ça m'a fasciné. Vous vouliez faire quoi avec ça ?
En fait, j'ai fait les deux. J'ai commencé la crimino, pour revenir un peu à l'historique. J'ai commencé la crimino. La crimino, c'était dans la perspective de travailler plutôt dans la prévention, donc pas nécessairement dans la répression. Donc la prévention, c'est-à-dire m'occuper d'enfants placés, c'est ça qui me passionnait. C'était toute la problématique ce qu'on appelait avant des enfants du juge, des enfants placés dans des homes. Donc là, j'étais assez sensibilisé à ça, ne me demandez pas pourquoi. Et donc j'ai fait la crimino, et puis parallèlement à ça, j'ai fait instituteur, parce que c'était court, c'était 2 ans en Belgique à ce moment-là, c'était 2 ans d'études, et que j'avais l'impression que ça que ça complétait ma formation de à l'UNIF quoi. La crimino c'était à l'université et Instit c'était des études plus concrètes on va dire.
Après avoir obtenu votre licence, vous vous réorientez à nouveau et commencez votre carrière professionnelle comme animateur dans le cadre d'un hôpital psychiatrique. Ça vous plaisait ?
Oui, toujours. Hein, je continue à faire des animations en psychiatrie, animations essentiellement de théâtre. En fait, j'ai des groupes théâtre et des groupes de théâtre d'ombre. Donc l'expression, toujours l'expression. Moi, je pense être obsédé par l'expression, qu'elle soit écrite ou théâtrale ou avec des marionnettes ou avec un théâtre d'ombre.
En fin d'émission, on reviendra sur vos ateliers de théâtre dans un hôpital psychiatrique. Et aussi, vous animez des ateliers de bande dessiner un peu loufoque au milieu scolaire. On aura l'occasion d'évoquer ce chapitre de votre vie. En 1991, vous rencontrez votre voisin, un instituteur et amateur de bande dessinée, Zidrou. Ensemble, vous allez faire le tour des éditeurs et fonder un studio. C'est ainsi que vous entrez dans l'univers très prisé du journal de Spirou. Votre premier récit comporte 3 planches. Il s'intitule « La triste fin du Père Noël ». Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites « ça y est, je suis en place » ou alors « attention, c'est que le début ».
Non, il y a sûrement de ça. On était à deux, donc avec mon camarade Zidrou, qui est un ami d'enfance en fait. Hein, je corrige un peu. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. On avait l'obsession de faire quelque chose dans la bande dessinée et voilà. Oui, on avait eu cette impression de faire quelque chose qui allait un peu décoincer les lignes avec cette histoire qui était dessinée par une dessinatrice qui s'appelle Karine de Brabantaire, qui a dessiné notre premier grand projet, qui était les aventures de Margot et d'Oscar Pluche, chez Casterman, et qui est devenu plus tard Sac à Puce chez Dupuis, et qui continue à être édité chez un éditeur belge qui s'appelle le Kennes. Voilà. Et donc, là, c'était, là, on avait effectivement, avec cette équipée avec Karine de Brabe, on avait l'impression, oui, d'arriver quelque part, quoi, d'arriver dans la cour des grands. Et on était pas mal fiers, il faut le dire.
On imagine. Au début des années 90, vous créez la série Max et Bouzouki, qui obtiendra son propre mensuel, 112 numéros et 15 albums édités chez Ken ou Kennes. Je ne sais pas comment on prononce cette maison d'édition. Renseignez-moi.
Kennes.
Là, c'est un franc succès. Hein. Est-ce que vous en êtes conscient à ce moment-là?
C'est un mensuel. En fait, je rectifie de nouveau, hein, mais c'est, vous n'allez pas me prendre mal.
Non, pas du tout. Mes sources sont Wikipédia, je vous le dis. Donc, frappez à la porte de Wiki et dites, il y a un problème sur ma biographie.
C'est vrai. En fait, la page Wikipédia a été faite par un amateur éclairé, quelqu'un qui aime bien la bande dessinée. Et c'est vrai que j'ai pas encore été lire ma page Wikipédia, ceci dit. Enfin, tout ça pour dire que le mensuel, il y en a 180 pour l'instant. Donc il y a un numéro 180 qui vient de sortir très récemment. Succès, oui, mais en même temps, ça, c'est très limité à la Belgique, le mensuel de Maxi Bouzouki. Je pense que chez vous, on ne trouve pas, ou alors il faut le commander, et c'est un peu plus compliqué. Donc, je mets un petit bémol à votre.
C'est un franc succès en Belgique.
Voilà, en Belgique, ça marche toujours. Donc,
Comment vous faites pour sortir des frontières? C'est vous qui proposez? C'est la maison d'édition? Comment ça marche?
Ben, en fait, nous, on est le petit frère de. On est votre petit frère, donc nous, si on veut, nous auteurs belges, si on veut avoir un lectorat assez vaste, ben on a intérêt à aller contacter des éditeurs qui sont chez vous, qui sont en France. Mais la plupart des éditeurs belges ont aussi une belle assise en France, que ce soit par exemple les éditions du Lombard, ben ils sont bien représentés chez vous. Donc
je pensais pas forcément que la France, hein, en sortant des frontières, je me pensais d'autres pays. Comment vous faites dans ce cas-là?
C'est surtout la francophonie, hein, donc, et c'est surtout la France qu'on vise principalement. Il y a, bon, la Suisse est bien, le Québec c'est très bien aussi, mais l'objectif c'est effectivement d'avoir de bonnes ventes en France, parce que là c'est prometteur.
En 2009, les éditions Vent d'Ouest éditent votre série Edwin et les Twins, qui reçoit le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Vous confirmez cette information ?
J'en suis particulièrement fier parce que c'était contre vents et marées et surtout à un moment donné contre l'éditeur qui n'y croyait pas. Et donc là, on a jubilé quand on a reçu ce grand prix et il est comment dire, les aventures d'Edwin et les Twins sortaient encore dans Mickey jusqu'à il y a peu. Donc on était très content de cette histoire-là. Bon voilà, maintenant ils ont disparu, hein, ces personnages ont disparu, mais ils ont vécu une belle vie. Finalement.
Vous dites ça, vous n'avez pas envie de les faire revivre, on n'avait pas forcément envie de revoir certains personnages que vous aviez inventés ou créés.
On les aimait bien, donc j'ai fait ça avec David Évrard qui maintenant aussi travaille sur d'autres choses qui ont un certain succès. Donc voilà, on les aimait bien, mais ça fait partie de notre vie, de notre ADN, mais on va pas. C'est toujours difficile de revenir sur des vieux projets. On n'a pas nécessairement la même énergie à investir dans un projet qu'on irait rechercher des limbes.
De manière générale, vous diriez que les thèmes que vous abordez dans vos livres jeunesse ou dans vos bandes dessinées viennent d'où ?
Eh bien, en fait, je n'en sais rien. En revanche, je peux vous dire que ici, c'est rigolo parce que l'actualité, comme vous le disiez tout à l'heure, fait que j'ai deux bouquins qui sortent plus ou moins au même moment et qui traitent de la vieillesse, enfin d'une certaine vieillesse. Donc ça, c'est amusant. En même temps, c'est un hasard, c'est un complet hasard puisque un des bouquins, je l'ai en tête depuis, je vais dire le Papy Titanic. J'ai ce projet en tête depuis une vingtaine d'années, pour ne rien vous cacher. Et les Chicouf, c'est un projet avec lequel est venu le dessinateur Serge Carrère, qui est venu vers moi et qui m'a proposé ça. Et moi, j'ai tout de suite accepté parce que ça me touchait, ça me parlait très fort, cette histoire de... Enfin, je suppose qu'on va y revenir, mais cette histoire de grands-parents. Cette histoire de grands-parents et de leurs petits-enfants, ça me parlait très fort. Donc, ça, c'est un hasard, mais il se fait que, voilà, les deux bouquins apparaissent au même moment et avec une thématique un petit peu similaire, mais qui n'ont rien... Finalement, ces deux livres n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a un qui va beaucoup plus jouer sur l'émotion, la tendresse, mon papy Titanic, et Les Chicouf va plutôt jouer sur une corde plus humoristique, on va dire.
Et familiale aussi. Dans Bad Barge, il est question de politique. C'est pour ça que je vous demandais les thèmes que vous avez abordés. Quel est le message que vous souhaitez faire passer quand vous faites une bande dessinée ?
C'est toujours un peu difficile à dire. Enfin, le message, c'est un message de convivialité. Comment on fait pour vivre ensemble sans se taper dessus, par exemple. Ici, comment on fait comment un papy fait pour vivre avec sa petite fille. Je parle de mon papy Titanic. Pour que ça se passe bien, sans qu'il y ait trop de heurts. Je pense que ça c'est un thème qui...
Mais c'est quelque chose que vous vivez aussi, vous, personnellement ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai pas encore de petits-enfants. j'ai des camarades qui ont déjà des petits-enfants, et j'en suis d'ailleurs fort jaloux.
Que répondent vos enfants quand vous dites ça ?
Pardon ?
Que répondent vos enfants quand vous dites ça ? Parce que j'imagine qu'indirectement, vous leur dites « j'ai envie d'être grand-père ». Ils vous disent quoi ?
Non, mais eux, ils vivent leur vie et je pense que la jeunesse, être jeune, avoir 30 ans en 2023, c'est autre chose qu'avoir 30 ans quand j'en ai eu 30, c'est-à-dire dans les années 90. Donc voilà, chacun ses priorités. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'adore, j'aime beaucoup les petits. Hein, donc moi, je vais pas devoir me pousser pour m'occuper de mes petits enfants. S'ils viennent. Ça sera chaque fois chic-chic et pas chic-ouf, je crois. Enfin, on verra.
On va justement parler du titre de vos bandes dessinées. On va parler également des sujets évoqués, de la façon dont vous les écrivez, le message que vous voulez envoyer. Il y a deux livres, deux bandes dessinées qui sortent actuellement. Mon papy, Titanic, qui a été édité chez Bambou Édition, signé aussi par Marco Polo. Et puis, Les Chicouf. Le premier tome s'appelle Grand Daron et Petit Lardon aux éditions Soleil. Carrère vous accompagne dans l'illustration. Falzar, vous apprêtez et vous écrivez surtout. J'ai lu qu'en plus d'écrire des bandes dessinées et des livres jeunesse, vous écrivez des pièces de théâtre ainsi que des chansons avant d'ouvrir ce nouveau volet de votre vie. Je vous propose d'écouter justement un titre que vous avez choisi. On va écouter soit Catherine avec Moment Parfait, soit Parcelle avec un titre que je ne peux pas dire. Voilà. Et puis, ou alors, Hubert Mounier, c'est l'ex-chanteur de l'affaire Louis Trio qui nous interprète La vie fait ce qu'elle veut. Vous êtes dans quel état d'esprit, Falzar, à cette heure-ci, 17h18, et qu'avez-vous envie d'entendre?
Ah, si je peux choisir, je vais prendre le dernier. Je vais prendre Hubert Mounier de l'affaire Louis Trio, parce qu'on est en train de fêter, c'est pas très sympa, mais il est décédé il y a quelques années, un 2 mai, si je ne m'abuse, et c'est un chanteur que j'affectionne particulièrement pour son sens de la mélodie qui est incroyable. Il y a des albums que j'ai écoutés en boucle comme ça, et cette chanson, je trouve, est très légère et en même temps assez profonde, donc voilà, ça me va pour Hubert Mounier, si ça vous va.
Ça me va très bien, je confirme. Ça date de décès le 2 mai 2016, donc il y a 2 jours et puis quelques années, hein, bien sûr, il nous a quittés. Et nous allons, grâce à la magie de la radio, pouvoir entendre de nouveau sa voix grâce à vous, Falzar. On l'écoute et puis on en parle après ensuite ensemble.
C'est un idéal. La vie n'est pas un vœu, qu'importe les étoiles. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits, des millions de mois, des millions de fois. La vie fait ce qu'elle veut. C'est une étincelle. On peut rêver de mieux, on peut brûler ses ailes. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits. Se sent éternel. Quand elle nous dit adieu, on attend des heures. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits, des millions de mois, des millions de fois. La vie fait ce qu'elle veut. La vie fait ce qu'elle veut.
Hubert Mounier avec La vie fait ce qu'elle veut, choisi par Falzar, notre invité scénariste de bande dessinée humoristique. Il a aussi écrit des livres jeunesse, je pense entre autres à Grandir avec les Schtroumpfs ou encore L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Alors moi personnellement j'adore les grands titres comme ça qui n'en finissent pas. Falzar, c'est vous qui trouvez les titres de vos livres ou de bande dessinée, ou c'est la maison d'édition qui dit hop hop hop, ce serait bien de faire ça?
Bon, l'histoire du fakir, ça c'est pas moi évidemment, hein. C'est notre camarade Romain Puertolas là qui a écrit son best-seller il y a quelques années déjà, et on a fait une adaptation dont on a fait une adaptation en bande dessinée. En général, oui, les titres ce sont les auteurs qui les trouvent. Ici pour les Chicoufs, ça s'est imposé de manière naturelle, et ça c'est plutôt, je pense, une idée de Serge Carrère, le dessinateur, parce que c'est un terme qui est très sympa, qui est très original, qui n'a pas été inventé non plus par Serge ni par moi, les Chicoufs, c'est un terme qui a été inventé par la dessinatrice des triplés, qui a trouvé ce néologisme dont je vais vous révéler le sens, oui. Si vous ne le connaissez,
oui,
pas encore.
Allez-y.
Donc c'est, ben voilà, donc chic, les enfants arrivent et quelques jours plus tard, ouf, ou bien quelques heures plus tard, ouf, ils s'en vont. Donc chic, ils sont là et ouf, ils s'en vont. Donc ça c'est un peu la phrase clé des grands-parents qui sont bien contents de retrouver leurs petits-enfants. Ils sont ravis, mais au bout de quelques heures ou bien de quelques jours, ben ils seront contents aussi que ces petits-enfants
rentrent chez
leurs parents.
Oui.
Voilà.
L'avant-dernière bande dessinée s'appelle Mon papy Titanic. Pareil, là, c'est vous qui avez trouvé, vous avez réfléchi avec Marco Polo.
Voilà, ça c'est, oui, là, ça c'est mon, c'est ça vient de mon petit cerveau, ça, mon papy Titanic, parce que voilà, j'avais envie, je trouvais que ça sonnait bien. Au départ, le papy en question était un peu dépressif, donc je le voyais sombrer un peu, peu à peu. Au départ, c'était plus, un peu plus sérieux comme thématique, et puis c'est devenu un peu plus humour et tendresse.
Raconter l'histoire de Rose qui va décider d'aller vivre chez son grand-père et de ne revenir chez elle que quand ses parents arrêteront de se disputer. Et en même temps, elle va permettre à son grand-père de revivre et de se sentir heureux ou en tout cas utile. Est-ce que vous pourriez confirmer ça?
Tout à fait, voilà. Ça,
bah là, c'était
ça
pas
va,
ma source Wikipédia. Là, j'ai bien lu votre bande dessinée. Je ne sais pas aller chercher ailleurs.
Non, c'est bien, c'est vraiment ça. Et c'est le choc de deux personnalités. Enfin, le choc, c'est un grand mot, mais voilà, le papy, il va un peu sortir de sa poussière. Il va un peu sortir de sa maison pour un peu faire des choses qui n'a jamais fait et dont il y a longtemps qu'il l'a plus fait, en tout cas. Donc il est bien content de retrouver un peu de vie au contact de sa petite fille.
Qui peut lire ce livre? Toute la famille? Des toupichounes? Des grands? Voilà. aux enfants?
Les enfants à partir de, ça dépend aussi du niveau de lecture de l'enfant, mais moi je le dirais à partir de 6 ans, sûrement. Et moi j'aime beaucoup la double lecture, c'est-à-dire les petites choses qui vont se mettre dans les bulles, qui vont se mettre dans les décors, qui vont peut-être parler aussi à des grands enfants ou à des adultes. Et j'espère, ça c'est toujours le vœu d'un auteur, je pense, c'est d'être lu avec plaisir autant par un enfant que par un adulte.
Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à une moralité?
Mais là, c'est oui, non, je pense pas consciemment, mais je veux sans doute effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, faire passer des messages, mais une moralité, c'est peut-être un grand mot. Mais j'ai envie quand même j'ai une certaine vision de la vie qui va passer comme ça. J'aurais un peu du mal à raconter, à écrire des histoires avec des gros flingues et des choses comme ça. Quoique, quand on est scénariste, on est capable de tout, hein. Mais je pense pas que ça. Je crois que je suis capable de faire ça, mais ça c'est pas ça qui va. Ça ne me ressemble pas nécessairement. Quoi. Voilà.
Vous êtes père de 3 enfants, vous l'avez dit. Est-ce que l'arrivée de vos enfants ont modifié votre façon d'écrire, voire même de percevoir le monde, et par ricochet, de changer de sujet?
Oui, sans doute. Et en même temps, ils m'ont surtout accaparé. Donc quand on a des enfants en bas âge, ben c'est pas non plus toujours évident de trouver le temps d'écrire, de trouver la concentration, de trouver les bonnes heures pour écrire. Donc là, on est occupé. Hein. Je ne dois pas vous faire un dessin ni aux parents qui nous écoutent. Hein. C'est un métier à temps plein être parent. Hein, donc, mais je pense que oui, ils ont influencé sûrement de manière inconsciente mes propos.
Et avec toutes vos créations et votre vie de papa, est-ce que vous avez quand même le temps de cultiver votre jardin, votre espace à vous ?
Le jardin en particulier, non. D'ailleurs, je le vois d'ici, il est en train de pousser à tort et à travers. Mais le jardin intérieur, oui, je pense. Surtout maintenant que les enfants sont grands, donc ils vivent leur vie. La plupart ont maintenant un boulot ou bien en tout cas un objectif, des choses précises qui se mettent en place. Donc voilà, je suis. On est redevenu. On a réacquis de la liberté ici, je pense, je dis on, ma compagne et moi, on a retrouvé de la liberté et donc on a retrouvé effectivement du temps et pour cultiver, comme vous dites, notre jardin intérieur, oui, c'est pas mal.
On va aller faire un tour du côté du jardin extérieur, on va écouter Pascal Aspe, on l'écoute attentivement et puis on en parle ensemble après et on parle globalement du sujet de l'écologie.
Ah, mon petit jardin préféré que j'aime tant.
J'ai besoin de refaire un potager.
La préparation du terrain est primordiale.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le responsable des jardins au Centre écologique de Terre Vivante. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de la floraison du potager. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que du coup, souvent dans les potagers, on voit des légumes.
Oui.
Il faut pas oublier que mettre des fleurs dans le potager, qui est une des associations possibles, fleurs-légumes, ça va nous rendre plein de services. Mettre des fleurs au potager, c'est déjà avoir un jardin esthétiquement, on va dire, plus attrayant, plus joli. Mais ça va être aussi assez utilitariste. Pourquoi ? Parce qu'en mettant des fleurs au jardin, on va attirer un des pollinisateurs, des abeilles, des bourdons, qui vont venir par la suite, polliniser nos cultures et donc augmenter notre production. Mais aussi, mettre ces fleurs, ça va attirer ce qu'on appelle des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est qui ? C'est les potes du jardinier, c'est nos copains. Et c'est des animaux, des êtres vivants. Et sur le coup des fleurs, ça va être beaucoup des insectes qui vont venir manger les ravageurs de nos cultures. Donc, on va attirer les syrphes, par exemple, qui sont des butineurs parce que la larve de syrphe va manger les pucerons. Et donc, mettre des fleurs, c'est joli. Ça permet de récolter des fraises et ça permet aussi de gérer les pucerons.
Et d'attirer les copains du jardinier. Comment on fait pour choisir justement ces fleurs ? On choisit lesquelles ?
Alors, on va faire simple. Vous n'avez jamais jardiné, vous démarrez cette année un potager. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez planter des plantes annuelles. Des plantes annuelles, c'est des plantes qui ne vivent qu'une année. Vous allez les planter cette année, vous allez les arroser. Elles vont pousser, elles vont mourir cet hiver. Et donc, ces plantes annuelles, vous allez plutôt choisir des plantes. Allez, c'est joli, moi j'aime bien des fois des plantes pas trop horticoles, mais j'aime bien les plantes horticoles avec plein de pétales un peu partout, très compliquées, mais des fois c'est difficilement accessible pour les pollinisateurs ces fleurs-là. Donc on va choisir des fleurs simples, des fleurs annuelles simples, des cosmos, des ignas, des œillets d'Inde. Et du coup on va venir mettre ces fleurs un petit peu partout au jardin, on va les arroser tout le long de la saison, elles vont faire une grande floraison et elles vont attirer tous les pollinisateurs et tous les auxiliaires qu'il faut.
Ça coûte cher ?
Ah non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Une plante de fleurs, ça coûte pas plus cher qu'un plant de légumes. Mais surtout, ça va vous apporter une autre vision de votre jardin. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Et vous allez voir, quand on a commencé à mettre de la fleur au potager, on a du mal à s'arrêter.
Est-ce qu'il y a des combinaisons plus gagnantes que d'autres ? Par exemple, si j'aime beaucoup, beaucoup les roses, est-ce qu'elles sont copines avec, je dis absolument n'importe quoi, des cerisiers, des poiriers ? On les met à côté ou pas trop ? Faut un peu les éloigner.
Eh bien alors, il y a forcément des combinaisons gagnantes. On va dire qu'en fait, ce qui va attirer les pollinisateurs, c'est quand il y a pas mal de fleurs à butiner. C'est vrai que si vous mettez une fleur toute seule, du coup, ça va moins l'attirer que s'il y a pas mal de fleurs qui les attirent. Et dans les combinaisons gagnantes, c'est bien que vous en parliez, il y a une famille botanique. Donc une famille botanique, c'est un niveau de classification. Il y a une famille botanique qu'on aime bien, c'est la famille du thym, du serpolé, du romarin, de la sarriette, de la menthe, de la mélisse. C'est la famille des labiers ou des lamiers. Ça dépend comment on a appris la classification, si c'est à la fac il y a 20 ans ou si c'est récemment. Donc moi, j'ai encore les restes de la fac d'il y a 20 ans. Cette famille botanique, elle produit pas mal de nectar. Et en plus, dans cette famille botanique, il y a pas mal de plantes vivaces qui reviennent tous les ans. Et ben du coup, ça, et ben ça va être votre opération que vous allez devoir faire pour l'année prochaine. Vous allez vous dire, ok, cet automne, je vais mettre en place des plantes vivaces qui vivent plusieurs années. Et dans ces plantes vivaces, je vais choisir plutôt des plantes, et ben du coup, à floraison intéressante. Et vraiment, moi, je vous invite à essayer le thym, le romarin et surtout l'origan. Vous verrez l'origan quand il fleurit, à quel point il y a des papillons dessus. Et donc, du coup, cet automne, vous allez planter des plantes vivaces qui vont s'enraciner pour plusieurs années et qui la résisteront mieux à la sécheresse que vos plantes annuelles que vous avez plantées cette année.
On va suivre tous vos conseils à la lettre. Et sinon, on peut vous rendre visite du côté de Terre Vivante. Vous nous rappelez l'adresse ?
Terre Vivante, c'est Domaine de Raux, c'est dans le Trièves, c'est à 1 heure au sud de Grenoble. Et du coup, vous êtes forcément les bienvenus pour voir des légumes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs.
Et on vient en famille, hein. On n'oublie pas les pitchouns, ils sont aussi les bienvenus.
Qui seront au petit paradis.
Merci Pascal, à jeudi prochain.
Au revoir.
Jusqu'à 18h, c'est tout doux sur RCF.
Fazar, quel regard vous portez à la préservation de l'environnement et qu'est-ce que cette chronique vous a permis de découvrir ? Ah oui, bonne idée, je vais faire ça dans mon jardin ou bon, non, pas trop, j'ai pas trop la main verte.
J'ai pas la main verte, mais je pense que c'est une question de temps aussi, oui, si j'avais un peu plus de dispo, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, oui, mais voilà,
pour l'instant,
ce n'est pas le cas.
D'accord. Voilà, est-ce qu'on peut retrouver le thème de l'environnement, du jardin, dans vos créations ?
Ben, notamment, oui.
Ah là là, on vous entend plus du tout, Falzar. On va se retrouver dans une poignée de secondes.
Et aussi, se passe dans...
On vous entend très très mal. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour parler de votre carrière, Falzar, votre carrière de scénariste de bande dessinée humoristique. À tout de suite sur RCF.
La matinale RCF, Pierre-Hugues Dubois.
Samedi prochain, le Royaume-Uni sera en fête pour le couronnement de son roi, le roi Charles, qui va devenir Charles III. À cette occasion, dès vendredi, pour le grand invité, nous serons avec Vincent de Rivaz, l'ancien patron de EDF au Royaume-Uni qui connaît personnellement Charles. Il sera le grand invité à partir de 8h10.
Écoute dans la nuit, Louis Auxile Maillard.
Quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais contemplée dans la création ? Aidez-nous ce soir à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
Tout doux avec Bérangère Lou.
Toujours en compagnie de notre invité Falzar, scénariste de bande dessinée, auteur de pièces de théâtre, compositeur de chansons. Est-ce que tout se passe bien pour vous, Falzar ? Vous nous entendez bien et... Vous êtes là ?
Vous nous entendez bien et...
On a un écho qui revient. Alors, je vous propose d'écouter un des titres que vous avez choisi. Catherine, avec un moment parfait. Voilà, puisque chaque moment est parfait. Voici Catherine, le choix de Falzar, notre invité, scénariste de bande dessinée.
Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais... Rien n'y paraît, c'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même, la plage est typique, mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Tum 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 tum. Ni souvenir ni avenir, un oiseau passe, chante mon Parnasse, poule un capolinaire. Bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage. C'est un mirage, c'est un moment parfait. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
Le moment parfait de Catherine, choisi par notre invité, scénariste de bande dessinée, auteur de pièces de théâtre, compositeur aussi de chansons. Falzar, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce titre-là de Catherine ?
Parce qu'il est, il est trop bien, quoi.
Il est parfait.
Catherine. Oui, il est parfait. Le bon, là, je vous ai perdu quelques instants, donc là, c'était moins parfait.
Mais le. C'est les aléas Catherine du direct, est... vous savez, oui, Falzar, oui, ça voilà. arrive. Mais c'est ça.
Et non, Catherine, il est juste parfait. C'est le mélange humour et tendresse que moi, j'adore. Et je l'ai déjà vu sur scène plusieurs fois et c'est toujours extraordinaire. Mmh. Quoi. Pour moi, il est exceptionnel. Voilà.
C'est créatif, c'est doux, c'est tendre. Et il y a des messages, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à votre art. Mon papy Titanic, vous en parliez juste avant la pause. Vous disiez qu'il est question d'environnement et d'écologie.
Oui, enfin par la bande, hein, évidemment, jamais frontalement. Moi, je préfère traiter ça, oui, comme je viens de le dire, par la bande, avec en montrant un peu le papy qui se balade, qui fait une petite balade avec sa petite fille et qui découvre que les choses ont changé en une trentaine d'années, que les choses ont bien changé. Mais qu'il y a toujours aussi, si le papy ne retrouve pas les endroits qu'il trouvait charmants 30 ans auparavant, ben la petite fille, sa petite fille Rose est là pour lui montrer qu'il y a d'autres endroits qui sont tout aussi chouettes. Et voilà, il faut surtout pas rester, je pense, dans le passé et se dire que c'était mieux avant. Il y a rien de pire. Quoi.
Puis on peut pas comparer, c'est des périodes différentes. Vous l'avez dit tout à l'heure, être parent à 30 ans n'est pas la même chose, enfin en 1960 ou 1980 ou 90 n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Après avoir découvert la bande dessinée Mon Papy Titanic aux éditions Bambou, est-ce que vous pourriez nous présenter votre dernière œuvre, Les Chicoufs, édité chez Soleil et illustré par Carrère?
Voilà, donc les chicoufs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un néologisme chic, les enfants arrivent, ouf, ils s'en vont quelques heures plus tard. Et là, on a un quartier résidentiel typiquement français ou typiquement belge, hein, d'ailleurs, hein, il y a la même chose chez nous, où il y a un quartier assez cossu, assez sympa, mais quand même assez cossu, et il y a les quatre, on va suivre quatre grands-parents qui ont une relation très très variable avec leurs petits-enfants. Il y a un couple qui n'apprécie que très modérément de recevoir les petits-enfants et qui essaie à chaque fois de s'échapper, d'échapper à ce qu'ils considèrent comme une...
Et on vous entend mal de nouveau. C'est quand même une bande dessinée qui est dédiée à tout public. Hein. C'est une série à gags sur les relations entre les grands-parents et les petits-enfants ou comment on peut passer de « qu'ils sont mignons » à « au secours, revenez les chercher, je n'en peux plus ». Il est paru le 26 avril dernier. Les Chicoufs est édité chez Soleil. C'est Carrère et Falzar qui le proposent. C'est le tome 1, Les grands darons et les petits lardons. Je vous recommande cet ouvrage, tout comme Mon Papy Titanic aux éditions Bambou. J'espère qu'on va vous retrouver. Je vous propose maintenant d'ouvrir la parenthèse cinéma. Nous allons entendre Pierre, Hugues Dubois et Valérie de Marnac nous parler du film de la semaine.
Tout doux, le film de la semaine.
Cette semaine sort en salle le film Temps mort. C'est le premier long métrage de fiction d'une réalisatrice belge qui vient de l'univers du documentaire Ève Duchemin.
Oui, c'est vraiment un film très prometteur pour la suite. C'est un film qui nous parle de la prison comme on l'a rarement vu au cinéma. Ça nous parle surtout de l'impact de la prison pour ceux qui en sortent et pour leur entourage, en suivant le parcours de trois détenus, Colin, Anthony et Amoussin, le temps d'un week-end et d'une permission de 48 heures. Alors la première séquence est uniquement sonore. C'est un plan noir avec des bruits métalliques de portes, de cadenas et de verrous qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis dehors, le silence, hein, quand ces trois hommes se retrouvent en liberté provisoire et la prison reste alors hors champ pendant quasiment tout le reste du film.
Votre demande de permission de sortie a été acceptée par le juge. On vous encourage aussi fortement à reprendre contact avec votre famille.
Et sinon, ça va là-bas? Tu fais pas trop marcher sur les pieds, j'espère.
Parce qu'après tout ce temps, ça va être compliqué pour vous dehors, vous comprenez?
Je sais parfaitement quel est mon devoir. Mademoiselle, je m'y prépare tous les jours.
Je voudrais juste trinquer au bonheur d'être en famille, voilà.
Rassieds-toi, Anthony.
Ils sont de trois générations distinctes, issus de milieux et de cultures très différentes.
Voilà, alors il y a Colin qui est un jeune issu de banlieue et qui, à peine sorti de prison, retrouve ceux qui l'ont entraîné là, alors qu'au fond de lui, bah, il aimerait renouer avec sa mère, emmurée dans son silence. Et puis il y a Anthony, qui a plutôt la quarantaine, qui est accueilli par ses parents et par toute sa famille. Mais lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa place de père auprès de son ado. Et puis Amoussin, lui, cherche un travail avant tout, alors qu'il n'a pas revu ses trois enfants depuis 20 ans. Alors, ces trois histoires ne se recoupent pas. Hein. C'est vraiment un cinéma du réel qui scrute ses personnages de manière charnel, au plus près des visages, des corps, et voilà, et qui leur donne beaucoup d'épaisseur et d'humanité. Ils ne cherchent absolument rien à démontrer, encore moins à juger, et on ne sait absolument rien de leur passé, hein, ni de leur faute. Et le film laisse au spectateur, bah, toute liberté d'imagination, et notre regard évolue au fur et à mesure où on découvre, et bah, leur vie, leurs difficultés, et puis surtout le regard de leurs proches sur eux, hein, qui sont entre compassion, amour, soutien, mais aussi incompréhension, rejet et même honte ou colère.
Alors le titre du film parle de temps mort. De quel temps mort parle-t-on ?
Alors moi je trouve que c'est vraiment un très beau titre. Hein. Vous le savez, dans les sports collectifs, le temps mort, bah, c'est cette courte pause dans le jeu de quelques minutes maximum qui est utilisée par les joueurs pour récupérer et puis par les entraîneurs pour donner des conseils. Et ici, bah, c'est ce temps de quelques dizaines d'heures entre la détention et une future réinsertion. Alors c'est plus une sorte de zone grise. Hein, et la question que pose le film, c'est que faire de cette pause? Comment retrouver un quotidien normal avec ses proches alors que la vie a continué sans eux? Et puis comment se pardonner un passé sans vouloir en parler?
Un mot peut-être sur le casting, Valérie?
Oui, ils sont absolument exceptionnel, tous les trois, mais je vais en citer deux. Le premier, c'est Karim Leclou, qui incarne Anthony et qui est absolument partout en ce moment. On l'a vu dans Bac Nord, dans la série Hippocrate. C'est aussi le grand frère dans le magnifique film de Rachid Ami pour la France. Depuis trois mois, c'est le quatrième film qui sort avec Karim Leclou. Alors, il a un visage très, très expressif. Hein, et il est en même temps inquiétant et fragile. Il passe en une seconde de l'enthousiasme à l'abattement. Et il est vraiment hyper émouvant dans ce rôle d'homme qui lutte contre lui-même et que la cinéaste n'enferme jamais sous des mots trop stigmatisants. Et puis le second qui est tout aussi exceptionnel, c'est Issaka Sawadogo. On en a parlé la semaine dernière pour son rôle dans Le Jeune Imam. Et ici, il joue le rôle d'un vieil Africain empreint d'une retenue et d'une dignité absolument bouleversante. Alors c'est un film un peu âpre par moments, hein, mais qui nous fait changer de regard sur un monde méconnu.
Le film s'intitule « Temps mort » et sort aujourd'hui au cinéma. Merci beaucoup Valérie.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
Notre invité s'appelle Falzar, il est scénariste de bande dessinée, auteur de pièces de théâtre, compositeur aussi de chansons. Est-ce que l'univers du cinéma ou des séries vous intéresserait? Est-ce que vous auriez envie d'écrire pour ce milieu-là, Falzar?
Oh, je ne vous entends toujours pas, mais ça va arriver dans une poignée de secondes, je l'espère. Presque, presque. On est à quelques micro-doigts de ça. Je peux rappeler que mon invité s'appelle Falzar. Il a écrit un certain nombre de bandes dessinées. Les deux dernières en date, je vous les présente depuis 17h. Mon papy, Titanic, aux éditions Bambou, écrit aussi, ou en tout cas illustré par Marco Polo. Et puis les Chicoufs. Alors les Chicoufs, chic, on est content de voir les petits-enfants. Ouf, on est content aussi qu'ils repartent. C'est signé Carrère pour l'illustration. Falzar, évidemment, notre invité pour le récit aux éditions Soleil. Est-ce que nous avons retrouvé notre invité? Pas encore. Alors, je vous propose une dernière pause musicale. Après, on va lui poser un certain nombre de questions à notre invité, à savoir pourquoi a-t-il choisi ce titre-là? Voici Parcelle sur RCF.
Thank you.
Musical de notre invité Falzar a choisi Parcelle. Je voudrais revenir sur l'univers du cinéma, mais avant ça, Parcelle, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix musical?
Là, vous m'entendez?
Très, très bien. Vous êtes à côté de moi.
Ah, très bien. Magnifique.
Oui. Parcelle, oui.
Oui, j'ai un écho un peu désagréable, mais j'essaie d'enchaîner. Et la question était...
Parcelle, la musique et là qu'on vient d'entendre, le choix que vous avez voulu entendre.
Oui.
Parcelle, pourquoi
même
ce choix?
Hein, je les ai vus en concert, ça sautille dans tous les coins, c'est très frais, c'est très léger, très pop. Et ça, c'est bien sympathique.
Ça donne une bonne énergie, mais je le rappelle encore, je trouve que vos choix musicaux sont très 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 proches et très en phase avec ce que vous écrivez. On entend beaucoup de lumière, on entend beaucoup de joie aussi quand on vous lit.
Ah ben c'est bien, c'est l'objectif. Et pour rapidement revenir à une question que vous me posiez juste
sur l'univers du cinéma.
Au cinéma.
Oui.
Là, vous avez donc il y a eu une petite séquence sur un film qui s'appelle Temps mort.
Tout à fait.
Qui se passe aussi dans l'univers de. On parlait de la criminologie là tout à l'heure, qui se passe dans l'univers des
carcéral.
Des
oui, oui.
Carcéral, voilà. Et très récemment, j'ai vu ce film très réussi sur la justice restaurative.
Oui.
Le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Qui est incroyable.
Entre autres, les victimes.
Tout ça pour dire que le cinéma français, avec ses réalisatrices, est en train de renaître. Voilà.
Et vous,
ça
personnellement,
pas grand-chose à voir avec ma BD.
Mais est-ce que vous, justement, vous auriez envie d'écrire pour le cinéma? Et si oui, qu'est-ce que vous écririez pour les séries aussi?
Voilà, là, on aimerait bien écrire, je dis « on », parce que avec mon camarade Vidou, dont on parlait tout à l'heure, le scénariste du Cobu, entre autres, on a effectivement le projet d'un jour écrire une comédie. On en a déjà écrit une moitié comme ça, mais bon, ça reste encore... voilà, il y a encore du boulot, mais c'est vrai que c'est un objectif qui serait sympathique.
Ça ne me surprend pas trop que vous ayez envie d'écrire des comédies. Je voudrais qu'on revienne sur un élément, c'est les tuches. Parce que j'ai pas tout saisi sur votre fiche Wikipédia. Je vois écrit l'univers du film Les Tuches est à la base des gags écrits par vous, illustrés par Marco Polo, dans les deux albums parus chez Michel Lafon. Vous pouvez m'éclairer sur ce sujet ?
Voilà, donc ça c'est une commande de l'éditeur Michel Lafon, qui est venu vers nous en nous demandant de faire une BD avec les personnages des Tuches, mais pas en reprenant, évidemment, pas du tout en reprenant les scénarios des films. Mmh. Donc on a créé des gags, des histoires courtes avec les personnages des Tuches. Il y a eu deux albums et même chose, la France entière a vu Les Tuches. Même chose, là aussi, on a essayé d'ajouter un peu d'émotion à l'humour, et je trouvais que ça fonctionnait bien, et je trouve que les films aussi fonctionnent très bien sur ce fil, avec ce fil entre humour et émotion. Bon, c'est aussi du gros rire, hein, c'est clair, mais voilà, ça on voit que les scénaristes des Tuches aiment leurs personnages.
Le Chicouf aussi, hein, au rire.
Mais oui, j'espère bien. C'est le but, c'est l'objectif, sinon c'est raté.
Mais ça marche en tout cas. Et maintenant, on va ouvrir la boîte à toudou.
La boîte à toudou.
Une boîte en bois que vous voyez ici. À l'intérieur de cette boîte, il y a un certain nombre de questions. J'ai 10 numéros derrière ces questions. Vous choisissez un numéro et puis je vous pose des questions en lien avec le numéro que vous avez choisi. Il n'y a pas vraiment de questions pièges. Si vous voulez, vous mettez une carte joker, mais vous verrez, c'est vous qui donnez les réponses.
Eh bien, on va dire 8.
Le pourquoi, le numéro 8 ?
Parce que j'aime bien le chiffre 8.
Sans autre raison apparente, ok.
J'étais à l'école, j'étais souvent numéro 8. du temps, on avait des numéros à l'école.
Voilà. Le meilleur conseil que vous ayez reçu ? Est-ce que vous pourriez nous le livrer ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ou que j'ai reçu ou que j'ai, d'être authentique, d'être raccord avec ce qu'on écrit, d'être en phase avec ses personnages et comme je viens de le dire juste avant, d'aimer ces personnages, même si a priori ils sont pas nécessairement sympathiques, mais en tout cas c'est important d'aimer les personnages qu'on crée.
Voilà. Autre question, autre numéro ?
Bon, alors on va mettre la question numéro 2.
Et pourquoi ?
Parce que j'étais toujours deuxième à l'école.
Une invention qui vous a impressionné.
Une invention qui m'a impressionné. Vous me posez ça, c'est vraiment des cols, c'est terrible. Une invention qui m'a impressionné. Qu'est-ce qu'on doit dire dans ces cas-là ? Je devrais dire la fusée pour aller sur
Mais vous, pas forcément ce que les autres diraient, ce que vous.
Moi je vous dirais le vélo, c'est bien, c'est une invention absolument incroyable, le vélo.
Vous pratiquez ?
Oui, comme ça, pour me balader, vraiment très peu. Mais je dirais que le vélo, c'est l'avenir, hein, donc ça va. C'est sûr que toutes les capitales européennes s'y mettent. Et donc c'est une invention, je ne sais pas de quand elle date, il y a un bout de temps. Et je pense qu'elle va bien revenir au devant de la scène. Donc je dirais le vélo. Allez.
Moi personnellement, je dirais Internet ou le téléphone portable. C'est, je trouve, très impressionnant. Moi qui ai connu l'ère sans téléphone portable ou sans Internet, je trouve que cette invention, elle a révolutionné le monde. Mais après, ce n'est pas mon interview. Alors allons-y pour une autre question.
On va dire le 5.
Le numéro 5, ce qui vous touche chez les gens.
Chez les gens, ce qui me touche chez les gens, c'est leur c'est leur capacité à rire. Je me rends compte que quand on est en société, quand on discute, qu'il y a de l'humour dans l'air, ça me touche directement de voir les gens rire et je trouve ça d'une intimité incroyable. Le rire ou le sourire, mais en plus le rire, et je trouve que c'est un liant extraordinaire pour les gens.
Lorsque vous animez des ateliers théâtre dans des hôpitaux psychiatriques ou alors lorsque vous faites des ateliers BD un peu loufoques au milieu scolaire, est-ce que vous voyez justement le public rire ?
Oui, voilà, c'est ça. Bon, je suis pas non plus Gad Elmaleh, hein, mais pour mettre les choses à leur place, mais c'est vrai que j'adore arriver dans une classe. En fait, mes animations scolaires, je les fais comme ça. J'arrive et je surprends les enfants en étant déguisé en méchant instituteur Latouche, si vous connaissez l'institut Latouche.
Oui, oui.
Du COBU, donc je commence mes animations avec un méchant instinct, et puis voilà, je vois les enfants se dérider petit à petit, et là j'ai mon salaire, quoi.
Ces ateliers, vous les proposez dans des milieux scolaires, je le disais, dans des salons du livre, je pense à Angoulême en 2020, à la fête de la BD à Bruxelles. Et qu'est-ce qui vous anime justement ? Pourquoi est-ce que vous vous impliquez dans ce genre d'animation ?
Parce que quand on est scénariste, quand on est auteur, quand on est dessinateur, on est tout le temps chez soi, la preuve, hein, là je suis chez moi, la plupart du temps on est vissé à son bureau, derrière un ordinateur, derrière cette invention que vous adorez tant, et là à un moment donné, moi il faut sortir, quoi, il faut prendre son vélo, il faut se mettre en route et faire autre chose. Donc moi j'ai ce besoin d'un peu plus d'extraversion, mais maintenant ça dépend d'un chacun. Il y a des auteurs qui se satisfont très bien de cette situation, mais moi j'ai besoin d'avoir du contact avec les gens. Voilà.
C'est à mon tour de rectifier. J'adore pas forcément la nouvelle technologie. Je suis impressionnée par ces inventions. C'est très très différent. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour terminer cette interview, Falzar ?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de, pour paraphraser l'auteur, le chanteur avec lequel on a commencé cette émission, Hubert Mounier, bien qui a créé une chanson qui s'appelle Vivre léger. Eh bien voilà, je pense que vous, voilà, je pense que c'est important de vivre léger.
Eh bien, je vous le souhaite en tout cas. Merci d'avoir partagé une heure de votre temps. Je rappelle vos deux ouvrages, Mon Papy Titanic aux éditions Bambou Éditions et Les Chicoufs aux éditions Soleil. Bonne continuation à vous et au plaisir de vous entendre ou de vous rencontrer. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.